Les Français ont le sentiment d'être dépossédés. Ils ont le sentiment d'être dépossédés de leur identité. Ils ont le sentiment d'être dépossédés de leur système de protection sociale, de leur souveraineté. Et honnêtement, ce « on est chez nous » d'ailleurs, qu'ils scandent parfois, ils ne le scandent pas seulement lorsqu'on parle d'immigration.
Les Français se sentent dépossédés, dit l'extrême droite. Mais dépossédés de quoi ? C'est la question abyssale que pose la bande dessinée dont je vous parle ce matin, la dépossession de soi. C'est l'histoire d'un acteur qui s'est produit au théâtre, mais que la France entière connaît pour ses apparitions à la télévision et pour son émission de radio Une veille de réveillon. Le voici en direct dans un studio comme le mien, débitant des histoires tristes, d'alcooliques tristes, un Noël triste. Il est viré sur le champ. L'acteur a perdu plus qu'un micro. Il a perdu sa voix, son estrade, son public, sa notoriété, son aura, tout ce qui, en ce bas monde, fait du regard des autres le ferment de l'estime de soi. L'acteur n'est plus personne. Il déchoit jusqu'au jour où il rencontre un ami qui lui promet de redevenir à nouveau quelqu'un. Ou comment un homme dépossédé, donc, va devenir candidat d'un parti fasciste pour rendre à la France son bien le plus précieux, son identité. Fable politique, médiatique et psychanalytique.
Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et comme on est vendredi, j'embrasse et je remercie de tout cœur mon équipe, Anne-Cécile Perrin à la mise en onde, Redouane Tella qui a préparé et programmé les émissions cette semaine avec l'aide de Sana Rezaghbara, et à la technique ce matin, l'ami Anne-Laure Cochet. Ulysse Nobody, si vous me regardez en vidéo, je vous montre la couverture. Ulysse Nobody paraît aux éditions Futuropolis. Bonjour Gérard Mordillat.
Bonjour.
Qui retrouve un micro qu'il connaissait bien à France Culture. Vous êtes poète, vous êtes essayiste, vous êtes romancier, vous êtes documentariste, vous êtes cinéaste, mais vous êtes aussi, on le sait peut-être moins, auteur de bande dessinée. Avec Jérôme Prieur, vous aviez poursuivi le projet Corpus Christi en bande dessinée. Là, vous l'avez écrit, Ulysse Nobody. À vos côtés, il y a Sébastien Gnédic. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, à la fois éditeur et dessinateur, hein, vous chapeautez la maison Futuropolis et vous mettez en image ce récit. Alors d'ailleurs, je vous ai demandé une faveur, Sébastien Gnédic. C'est si rare que l'Instant M reçoive un dessinateur que chaque vendredi, il y a donc ce jeu qui est réservé aux fidèles de l'Instant M. Eh bien, celui qui gagne ce matin remporte un album, Ulysse Nobody, avec un dessin original et une dédicace de ses auteurs. Profitez-en, c'est rare. Alors, la question du jour, elle est la suivante. L'adresse mail, c'est toujours la même, hein, l'Instant M, tout attaché à radiofrance.com. La question du jour, c'est de 1969 à 1975, Jean Frappa a fait s'affronter à la télé de grands dessinateurs de BD. Comment s'appelait cette émission de l'ORTF ?
Trouble conjugal, c'est le coup d'envoi donné par le duo Claire Bretéché-Gottlieb opposé au duo Druyé-Gire. Le jeu consistant pour chacun des deux camps à construire un dessin aussi cohérent que possible malgré les propositions adverses. Et chaque fois que la balle changera de camp, vous entendrez le signal musical que voici.
Qu'il fait mal aux oreilles. Sans le dire, vous vous souvenez du nom de l'émission, Sébastien Gnédic ?
Oui, bien sûr. Et je conseille aux auditeurs, quand ce sera dévoilé, d'aller voir des archives.
Les archives,
ouais, c'est super.
Alors, des duels en bande dessinée à la télévision française, l'Instant M à radiofrance.com. Bonne chance à vous tous. L'histoire donc d'un acteur déchu, d'un personnage médiatique, homme de télévision, voix de radio, qui va devenir le candidat fantoche d'un parti d'extrême droite. Gérard Mordillat, qu'on a connu compagnon de route de la gauche, et même de la gauche du Parti communiste, de la France insoumise, un récit sur l'extrême droite. On ne vous attendait pas à l'autre bout de l'échiquier politique.
Eh bien, on avait tort parce que avant la dernière présidentielle, l'élection de M. Macron, avec un ami, nous avons réédité les discours de Mussolini, histoire de bien faire comprendre ce qu'était cette dérive générale vers un néo-fascisme ou un post-fascisme qui s'annonçait. Et je crois que nous avons intérêt à analyser cette dérive parce que la menace est chaque jour plus présente et je crois, comme l'a dit si bien Brecht avant moi, que le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais c'est son évolution en cas de crise. Eh bien, je crois que nous sommes exactement dans cette situation politique et sociale, et ce travail-là, participe à ma réflexion sur ces questions.
Alors, Ulysse Nobody, car c'est le nom de votre personnage, et c'est un nom très programmatique, on va en reparler, va vraiment devenir le candidat d'un parti fasciste. Ça n'est pas seulement un parti fascisant, c'est le nom de ce parti, le Parti fasciste français. Vous vous êtes posé la question avant d'utiliser ce mot fasciste, qui est si rare en réalité de nos jours. Il est désuet, il fait mal à l'oreille, il est chargé d'une histoire qui n'est peut-être pas totalement française. On parle du fascisme espagnol, du fascisme italien, du fascisme roumain, mais plus personne ne l'emploie ici-bas.
Oui, c'est dommage puisque les fascistes actuels n'ont pas le courage de prendre le nom qui pourtant leur convient parfaitement. Et là aussi, Paxton, le grand historien américain, a dit, je ne dirais pas autre chose que ce n'est pas parce que, je le cite, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les formes du fascisme ne reprennent pas les formes historiques du fascisme que ce n'est pas du fascisme. Or, on est très clairement dans cette perspective-là aujourd'hui à travers plusieurs courants politiques qui ouvertement se revendiquent au fond, sans oser le dire, de ce qu'est la pensée de Mussolini.
Mais votre personnage résiste, Sébastien Gnédig. Il y a bien un moment où il dit « Mais fasciste, je ne suis pas fasciste ». Et on lui répond « Tu l'es sans le savoir ». C'est-à-dire, au fond, on va chercher le fasciste qui pourrait sommeiller en chacun d'entre nous.
Oui, c'est tout le débat de cette histoire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des idéologues, il y a des gens qui, effectivement, ce qui est très bien décrit dans la bande dessinée, je trouve, par Gérard, c'est la manière dont un parti prend des gens, utilise leur colère, leur frustration. Pour les amener, puis s'en servent et les jettent. Mmh. Et c'est très différent, et c'est pour ça que moi j'ai pris cette histoire. C'est-à-dire que moi j'ai de la sympathie pour Ulysse Nobody. Je ne le pense pas d'ailleurs vraiment fasciste, je le pense malheureusement perdu. Et comme toute personne perdue, cette envie d'aller vers... de chercher un recours, quelque chose. Et
ils peuvent de retrouver une dignité,
un rôle. Tout à fait. Alors dans fonction. Le cas de Nobody, puisqu'il est acteur, il y a aussi cette envie, comme vous l'avez très bien dit dans cette introduction, il a envie de rebriller, d'être à nouveau quelqu'un.
Ulysse Nobody, vous avez choisi ce nom d'Ulysse Nobody qui est magnifique. Ulysse Nobody, c'est un pléonasme, Gérard Mordillat.
Je voulais que le personnage soit personne, c'est-à-dire n'importe qui, vous, moi, n'importe qui. Ce qui était important, c'était de décrire le mécanisme qui amène quelqu'un comme ce personnage à simplement perdre son travail, à voir toutes les portes se fermer, à être désespéré et finalement être sauvé, j'ai envie de dire, par le gong et par un ami qui l'entraîne dans ce voyage, c'est pour ça qu'il s'appelle Ulysse, vers un parti fasciste. Mais
Ulysse
au fond,
qui a dit au Cyclope, mon nom est personne.
Bien sûr.
Voilà. Et ça, c'était le nom que s'est fabriqué cet acteur qui ne s'est jamais appelé Ulysse et qui ne s'est d'ailleurs jamais appelé Nobody. C'était son nom de scène. Et finalement, la scène, c'est ce qu'il faisait exister. C'est ce qu'il faisait être quelqu'un.
Comme vous l'avez dit, il a enfin retrouvé un rôle. Et je crois que la quête de Nobody, c'est de retrouver un rôle, d'apparaître, d'être dans la lumière, d'être devant un micro, sous les projecteurs, etc.
Sur les plateaux de télévision. Sébastien Gnédig, quel corps, quel visage on donne à quelqu'un qui est personne?
Alors, c'est intéressant parce que la proposition de Gérard, c'était de donner une silhouette. En fait, de plutôt s'appliquer à lui donner un contour plus qu'un visage, puisqu'il est pendant toute une partie du récit un peu personne, un peu perdu. Et c'est d'ailleurs même les coloristes, que je sais, Christian et Françoise Durieux, qui ont même été jusqu'à ne l'en faire en couleur qu'une couleur, de le remplir que d'une simple teinte pour le dissocier du réel.
Il devient comme une ombre bleutée.
Exactement, et il est un peu perdu comme ça. On voit qu'il peine à trouver sa propre identité.
C'est ça,
justement.
Et que souvent il s'efface.
Voilà. La consigne de Gérard, c'était de me baser sur Jean Renoir dans La Règle du jeu.
Ouais. Exactement.
Ouais. Ouais. Alors, à Ulysse Nobody, son père reproche tous les trucs débiles qu'il a joués à la télé. Et la réponse d'Ulysse Nobody, c'est « ils m'ont fait connaître ». Et pour être connu, il faut être reconnu. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans ce récit. C'est-à-dire que pour avoir un rôle, quand on est un acteur déchu, et bien même avoir un petit rôle, il faut être connu. Et quand on n'est plus connu, on n'est plus reconnu. Et donc il y a toujours cette discussion sur qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'exister, Gérard Mordillat.
Exister, c'est apparaître, et notamment pour un acteur, c'est apparaître, c'est se faire voir, et se faire voir à n'importe quel prix. Et combien de fois ai-je entendu des acteurs rappeler que Al Pacino avait commencé par faire des pubs pour de la banane, et donc il est devenu Al Pacino. Et donc on peut faire, au fond, n'importe quoi, à partir du moment où on est en place. Et ça me fait toujours penser à cette chose que j'adorais, que j'avais lue de Berlioz, qui disait « La critique, je ne la lis pas, je la mesure. Au-dessus de 25 cm, c'est forcément bon. » Eh bien, pour les acteurs, c'est la même chose. On peut apparaître dans n'importe quoi tant qu'on apparaît.
C'est ça. Et on sent bien qu'il y a toute une médiasphère. C'est-à-dire, parce que Ulysse Nobody, il est en colère contre Radio Plus, la radio qu'il a virée, contre la patronne de Radio Plus, mais contre aussi tous les patrons de chaînes de télé, tous les salauds qui sont ligués contre lui. Et donc, on sent bien qu'il a besoin d'exister et qu'en même temps, il en veut à la machine qu'il a fait exister, de ne plus le faire exister.
C'est toute sa tragédie, c'est la tragédie d'un homme ridicule qui finalement perd la raison et finit par ne plus voir le réel et ne penser qu'à lui-même. Et donc, ce retour extrêmement égoïste vers sa personne va le perdre d'une certaine manière, puisque ne se rendant pas compte que seule la solidarité, notamment dans le milieu artistique, permet de vivre, si soudain on la rompt, eh bien on a tout rompu, il ne reste plus qu'à disparaître.
Est-ce qu'il a existé, Ulysse Nobody ? Je vous pose la question parce qu'il y a un acteur qui s'appelle Franck de la Personne, et dans la personne, il y a forcément un body ou un nobody, acteur qu'on a bien connu, enfin moi je l'ai vu toute ma jeunesse à la télévision, y compris dans Palace, beaucoup de rôle au théâtre aussi, un acteur qui un jour a pris fait et cause pour Marine Le Pen. Je vous fais écouter, il était sur scène au Zénith en avril 2017.
Oh, vilain Fillon, grenouille de bénitier, oh, tu piques l'argent des Français, tu le planques dans le sac de ta femme. Oh non, oh oui. Ah oui. Oui, mais attention, toi, tu as un cabinet noir.
Oh, Ulysse Nobody, c'est Franck de la Personne, Gérard Mordilla.
Je connais bien Franck de la Personne pour avoir tourné 4 films avec lui. Son nom m'a inspiré. Je voulais que le personnage ne soit personne. Et donc, c'est ça. Et là, s'arrête la ressemblance. Parce que, ensuite, c'est l'histoire d'un acteur. Et des acteurs, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai tourné avec beaucoup. Je connais bien ce qu'est la vie des acteurs et les douleurs et les secrets des acteurs. J'ai pas cherché à faire un portrait de Franck de la Personne. Ça ne le méritait pas. Mais...
Franck de la Personne qui, en réalité, a disparu aussi des écrans parce qu'il lui arrive exactement ce qui arrive à Ulysse Nobody, où son agente lui dit « Mais t'es complètement taré de t'afficher avec les fascistes, tu vas tout perdre en télévision et en radio. »
Oui, mais il va tout perdre et gagner un instant de présence, instant au soleil des projecteurs. Mmh. Et ça vaut tout. Même tant pis pour le reste, au fond. C'est évidemment une démarche suicidaire. Ce suicide, eh bien, il veut le mettre en scène. Il veut que ce soit quelque chose, briller une dernière fois et mourir sur scène, finalement.
Moi, je trouve que ça s'entend beaucoup dans l'extrait que vous avez passé. On sent qu'il jubile. Il est content. Il est content d'être là. Il est content de ses effets. Il fait ses effets de manche. Moi, j'ai beaucoup regardé ce discours pour m'en inspirer dans la scène dans Nobody, dans Ulysse Nobody. Il y a une scène de discours pour prendre sa gestuelle.
Il y a une scène de discours et il y a aussi toute une séquence que vous avez étalée sur 2 pages, Sébastien Nédic, où il est en live sur Instagram. Il attend les clics, il attend les likes, il attend les partages. Et il fait des blagues. Et en fait, il se rend...
Une blague horrible, Oui, alors là, effectivement, il y a de très belles archives de cette cafette avec Florian Philippot, d'ailleurs, où on le voit à la machine à café expliquant que c'est sympa, qu'on est dans au QG du Front National, enfin du Rassemblement.
Franck de la Personne qui a ensuite suivi Florian Philippot quand il a fait sécession.
C'est lui qui est venu le chercher.
Avec le Rassemblement National. Quel degré de réalisme on peut injecter justement à l'image, Sébastien Gnédic, quand on met en scène un récit qui est une fable et qui en même temps s'ancre dans une réalité politique et dans une réalité sociale. Jusqu'où justement vous avez voulu pousser le réalisme de vos images ou au contraire chercher à les déréaliser ?
Alors moi c'est vrai que j'ai pas un dessin réaliste, mais c'est très important d'ancrer quelque part dans cette réalité un récit parce que c'est ce qui lui donne sa force. Et le fait par exemple de situer cette histoire au Havre, je suis allé faire les repérages au Havre, j'ai logé Ulysse Nobody dans un immeuble.
Parce qu'on reconnaît
précis.
Parfaitement l'architecture en béton de Perret, ah bah etc., oui, qui est très visuelle, très reconnaissable.
Ouais. Et j'ai fait tous les parcours. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été repéré tous les lieux qui sont dessinés dans ce, ou que j'ai choisis pour ce récit. Et j'ai fait les chemins, je les ai empruntés et ils sont représentés dans la bande dessinée. Ouais. Alors, je m'excuse auprès de tous les Havrais, nous n'avons pas représenté le port, ouais. mais tout le reste. Voilà, je tiens à le dire, voilà, parce que j'ai eu une remarque sur ça.
Alors, il fallait trouver le point de bascule, Gérard Mordillat, dans votre scénario. C'est-à-dire le moment où lui, il est tombé suffisamment bas pour devenir une proie, justement pour ce type de parti qui recrute. Et puis, le moment où celui qui vient le rencontrer va lui faire comprendre dans, entre quelles mains il est tombé. Il fallait trouver le moment. C'est la page 47. C'est quand Ulysse Nobody dit à quel point il en veut à cette salope de Chausson Bernstein, qui est donc la directrice de Radio Plus, qu'il a virée. Réponse, toute façon, je la déteste, et son youpin de mari aussi.
Mais voilà, c'est
en un mot, le récit bascule.
Exactement, c'est exactement à ce moment-là. Mais on comprend bien que Ulysse Nobody, il tourne là vers le parti fasciste, mais qu'il aurait pu tourner vers l'alcoolisme, vers la drogue, vers la religion, si ça s'était présenté. Il n'y a pas de conscience politique chez lui, il n'y a rien, il y a un vide intellectuel terrifiant.
Mais tout le récit bascule sur ce mot, youpin.
Ah bah sur les youpins, forcément, puisque c'est toujours cette accroche, bah là on rejoint le fascisme historique.
C'est ça.
Où l'antisémitisme, le racisme sont les piliers même de la pensée fasciste.
Et puis, il y a cette idée que le fascisme fait vendre. Vous le faites dire même à votre personnage recruteur du Lisnobédi. Le fascisme fait vendre, puisque je l'ai dit, c'est aussi une fable médiatique.
Il suffit de regarder les télévisions en continu aujourd'hui en France pour voir que le fascisme fait vendre et qu'il suffit d'agiter un histrion ou deux harpies fascistes pour que les téléspectateurs soient au rendez-vous. Donc, je crois que c'est devenu presque une sorte de marque, un produit d'appel.
Il y a un petit moment, Sébastien Gnédic, très étonnant. Avant de basculer dans le fascisme, Ulysse Nobody va faire un petit boulot. Il faut bien payer le loyer. Il va faire du démarchage téléphonique. Et puis là, il y a l'idée que quand on est au téléphone et qu'on démarche des gens, on le fait devant un miroir. On le fait devant l'image de soi, puisque je l'ai dit, en fait, c'est toute la question de ce livre, l'image de soi.
Ah oui, c'est terrible d'ailleurs, ce travail-là, moi je pense, parce qu'en plus, on est sans cesse, quand on se met de l'autre côté, qu'on est sans cesse importuné par ces gens et qu'on les rejette et qu'on leur répond pas ou qu'on leur répond mal, eh bien en fait en face on a ça, ces gens-là qui en plus doivent effectivement essayer de jouer leur rôle, jouer l'un et l'autre d'ailleurs, ils doivent se mettre à la place d'eux. Et malheureusement d'ailleurs je trouve que on ne se met pas assez à la place des autres et je pense que c'est la force de la bande dessinée d'ailleurs de le faire, c'est-à-dire que moi en tant que dessinateur j'ai une empathie pour mon personnage Ulysse Nobody, je l'aime bien, c'est un peu un gros coin-coin mais je l'aime bien, il a à force de le dessiner dans des centaines de cases.
Non mais c'est un livre très doux, très calme, très mélancolique, alors qu'il raconte une histoire de colère et qu'il raconte une histoire d'activisme et qu'il raconte une histoire de grande violence politique.
Mais moi je pense que c'est toute la force du dessin de Sébastien qui est justement ne rajoute pas de la crème chantilly sur l'histoire. Donc on est absolument dans quelque chose de terrible, dessiné de façon délicate. Et moi, j'espère que le livre fera rire, réagir et réfléchir, peut-être.
Ulysse Nobody, donc Mordillat Gnédic, sort aux éditions Futuropolis. L'émission de Jean Frappal au RTF s'appelait Tac au tac, voilà. C'est conseil de Gnédic, allez regarder les archives. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie d'être venu dans ce studio. Vous allez retrouver Ali Rebéi juste après la pub et juste après les infos.